Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On dit souvent que c'est le plus grand club du monde. Le Real Madrid possède à coup sûr quelques lignes à son palmarès qui en font l'un des clubs de football les plus titrés en Europe et même dans le monde. Pour incarner cette réussite, les merengués se sont appuyés sur des grands joueurs, de Di Stefano à Cristiano Ronaldo en passant par Raúl, Puskás, Zidane ou encore Casillas. Mais quel est le meilleur, celui qui mérite de figurer tout en haut du classement ? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. Pour m'accompagner, quatre journalistes de la rédaction d'Eurosport, Laurent Vergne, Maxime Dupuis, Julien Pereira et Glenn Cellier. Salut messieurs.
Salut.
Bonjour Adrien.
Salut.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les anciens épisodes sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles et vous abonner, comme ça vous recevrez les prochains épisodes directement sur votre smartphone.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alors pour commencer, messieurs, qui avez-vous choisi de défendre? Laurent.
Alfredo Di Stefano.
Julien.
Casillas.
Maxime.
Raoul.
Glenn.
Évidemment, Cristiano Ronaldo.
Raoul.
Tiens, bah, plus que tu dis évidemment, on va commencer par toi, Glenn, si ça te paraît si évident. Pourquoi avoir choisi Ronaldo? Parce qu'il est le meilleur buteur de l'histoire du club?
Oui, notamment, mais pas seulement. C'est évidemment, c'est pas celui qui est resté le plus longtemps au Real Madrid. C'est pas non plus celui qui a eu le plus de titres. C'est pas peut-être pas le plus aimé des Madrilènes. Mais il y a la folie statistique avec Ronaldo. Et c'est ce que tu dis, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est tout simplement hallucinant. En 9 saisons, il a mis 450 buts en 438 matchs. C'est hallucinant. C'est plus d'un but par rencontre. Voilà, c'est évidemment cette folie-là qui fait que pour moi, Ronaldo s'est imposé. Parce qu'en plus, il faut voir qu'il arrive à une période où le Real avait quelques soucis pour regagner cette fameuse Ligue des Champions à nouveau. Depuis 2002, il y avait un vrai trou. Il y avait l'ère Guardiola, évidemment, avec le Barça. Et il a remis le Real à sa place, c'est-à-dire sur le toit de l'Europe, en étant juste un monstre sur le terrain et un monstre statistique. Alors, il y a évidemment toutes ces stats. On ne va pas toutes les faire parce que ce serait beaucoup trop long d'en parler, tant il y a eu un nombre de buts colossal avec lui. Mais il y a évidemment surtout son palmarès en 9 saisons. C'est 4 Ligues des Champions, 3 mondiaux des clubs, 3 mondiaux des clubs, 3 Super Coupes de Liga, 2 Coupes du Roi. Enfin voilà, c'est juste impressionnant, Ronaldo. C'est aussi des images. On se souvient tous évidemment de son but d'anthologie avec ce retourné contre la Juve. Voilà, Ronaldo au Real, c'était ça. C'était un monstre statistique et un monstre tout simplement le meilleur joueur pour moi du Real Madrid historique parce qu'il y a évidemment un nombre de grands joueurs impressionnants qui sont passés par le Real parce que c'est un club historique, peut-être le plus grand club du monde. Évidemment, il y a énormément de grands joueurs, mais lui, bah, sa tête passe au-dessus de tout le monde. On le voit, c'est évidemment lui qui sort du lot et de plusieurs manières.
Est-ce qu'on peut dire qu'un joueur est le plus grand joueur de son club si ça se termine comme ça s'est terminé avec Cristiano, c'est-à-dire que ça s'est terminé de manière mitigée? Il est parti du club, on sait que les supporters n'étaient pas forcément tous raccord par rapport à d'autres joueurs, je pense à des Raoul, à Di Stefano qui font l'unanimité. Ronaldo ne fait pas forcément l'unanimité au sein de la Maison Blanche.
C'est le vrai paradoxe avec Ronaldo, tu as complètement raison là-dessus. Il n'a pas su se faire aimer peut-être à sa juste valeur et c'est ce qui, par les par le Real et notamment aussi par la direction. On sait que c'est ce qui a un peu provoqué son départ. Il avait l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et c'est vrai, il y a une vraie différence par rapport aux hommes dont on va parler tout à l'heure. Mais pour moi, ce qu'il a fait sur le terrain se justifie. C'est peut-être ça aussi, c'est le plus impressionnant, c'est que au-delà de l'affect, il y a ce monstre statistique qui justifie pour moi juste ce statut de meilleur joueur.
Puisque la fin, pour moi, c'est simplement le joueur en lui-même, c'est son caractère très égotique. C'est quelqu'un qui est comme ça, voilà, qui pense aussi à lui avant. C'est peut-être aussi une différence par rapport au joueur dont on va parler après. Et voilà, je pense que l'amour, le désamour, il se joue surtout là-dessus, sur ce que représente le joueur et l'image qu'il redonne de lui-même. Donc, je ne pense pas que ce soit lié à la fin, parce que finalement, c'était une histoire qui se terminait et ce n'est pas si mal terminé que ça pour moi.
Après, c'est aussi la question du club. Bien sûr qu'il y a le personnage Ronaldo qui était beaucoup plus clivant que d'autres. Le Real aussi a toujours eu beaucoup de mal, surtout sur l'histoire récente, à dire adieu à ces légendes, entre guillemets. Il n'y a pas eu que Ronaldo. Ça va peut-être être le cas avec Sergio Ramos à la fin de la saison. Donc, c'est aussi la marque du club, quand même, pour moi.
Il y a aussi un autre joueur dont l'histoire ne s'est pas forcément finie comme il l'espérait. C'est Raoul. Raoul qui était l'idole pendant des années du peuple madrilène. Maxime, c'est le joueur que tu as choisi de défendre.
Ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore à l'avoir oublié, mais on est passé à autre chose avec Ronaldo. Ronaldo, c'est finalement un peu son successeur au Real Madrid. Il a pris son numéro 7, évidemment. Et dans Raoul, il y a un peu de l'anti-Ronaldo. Par là, je veux dire que Raoul est une immense star, mais c'est une star de devoir. C'est un joueur qui n'a pas de problème à se fondre dans un collectif. Et c'est presque pour ça, je dirais, qu'on oublie un peu ce qu'il représente. Enfin, j'exagère un petit peu, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que avec lui, on n'est pas dans le tout stat comme on peut être avec Ronaldo, avec tous ses buts à la pelletée, même si, il faut quand même le rappeler, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real, même si loin derrière Ronaldo, c'est quand même 323 buts. Voilà. On peut dire ce qu'il représente. Il est 6 fois champion d'Espagne, il gagne 3 Ligues des Champions, et ça, j'y reviendrai, c'est pas anodin. 2 coupes intercontinentales, il marque 2 fois en finale de la C1. C'est d'ailleurs lui l'autre buteur de la finale de Glasgow, celui qui met le Real sur les rails avant la volée, évidemment, Zidane. Et voilà, c'est aussi lui, symboliquement, c'est le fer de lance du renouveau du Real sur la scène européenne. Il faut rappeler qu'il va gagner 3 Ligues des Champions, donc 98, 2000, 2002, et qu'avant ça, il n'y a pas de victoire depuis 32 ans. Imaginez ce que c'est 32 ans sans victoire en Ligue des Champions. Imaginez aujourd'hui que le Real mettrait encore 3 décennies à en gagner une nouvelle. Ça paraît complètement dingue. Et il a fait partie de cette nouvelle génération qui a remis justement le Real sur le devant de la scène. Et pourquoi je dis aussi qu'il y a de l'anti-Ronaldo là-dedans et que c'est difficile de comparer, je trouve ce qui est injuste avec Raoul, c'est peut-être finalement qu'il n'est pas né, on va dire, à la bonne époque. Alors, sa carrière, évidemment, je viens de le dire, c'est formidable. Mais on n'est pas à l'époque et on n'est pas sur une personnalité qu'on met en avant par-dessus tout le monde. Je pense aussi qu'il évolue.
Il n'a pas joué dans les années 30 non plus.
Non, mais il évolue dans un contexte beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dense que Ronaldo, par exemple. Ronaldo, c'est les années 2010, c'est Ronaldo, Messi, Barça, Real, avec deux clubs qui sont très, très, très loin devant tout le monde et une Liga qui n'a jamais été aussi déséquilibrée. Si le championnat d'Espagne a toujours été un championnat à deux têtes, on va dire, c'était pas comme ça. Prenez les années 2000, le début des années 2000, la Corogne est champion, Valence est deux fois champion, le Real est champion, Barcelone est champion. Je veux dire qu'il y a une densité beaucoup plus importante. Et je me dis que ce Raoul-là, qui aurait joué peut-être à la place de Ronaldo, à la jeunesse de Ronaldo dans les années 2010, aurait fait gonfler aussi ses chiffres à l'image d'un Ronaldo qui a vraiment tout cartonné pendant ces années Real Madrid. Voilà. Et ce que j'aime bien, moi aussi, avec Raoul, c'est que finalement, c'est une forme de résistance aux Galactiques. C'est-à-dire qu'il gagne avant les Galactiques, ça, il faut le rappeler, parce qu'on résume souvent cette période-là aux Galactiques. Figo arrive, Zidane arrive, Ronaldo arrive, Owen, Beckham, etc. Mais il est toujours là, lui. Morientes a eu plus de mal, il a dû s'effacer au bout d'un moment, mais lui, il a toujours incarné ça, il a tenu la dragée haute à cette génération-là, cette évolution même du football. Et ce qui marque aussi, c'est son début. Il arrive à 17 ans. C'est aussi, aujourd'hui, ça paraît commun, mais c'est tout sauf rare. Et voilà, le seul petit regret aujourd'hui, c'est, je pense, il y a un petit timing qui n'est pas forcément favorable à son talent, à son élégance, à ce qu'il savait faire sur un terrain. Et ce timing-là, ce qui est entre guillemets drôle, c'est qu'il ne sera pas favorable pour lui avec l'Espagne, puisqu'on sait qu'il n'est pas des grandes années de l'Espagne. Alors que s'il y en avait un qu'il méritait, et peut-être par ce qu'il est, par ce qu'il représentait, par son sens du devoir, je le répète, c'est bien Raoul qui était, je le répète, pour moi, c'est vraiment une star de devoir.
Je suis assez d'accord avec toi et c'est ce que j'ai aimé moi avec Raoul et c'est là où je te rejoins, c'est ce côté exemplaire, pour moi il incarnait vraiment les valeurs du club, il incarnait vraiment les valeurs du Real et même à la période des Galactiques, c'est qu'on savait que bah, voilà, il y avait un capitaine qui était là, c'était Raoul, c'était lui qui portait un peu le club, ce que représentait le club, c'est ce que j'aimais avec Raoul, cet état d'esprit. J'ai toujours eu l'impression que ce n'était pas forcément le joueur le plus talentueux. Mais que voilà, avec cette envie, cette détermination, etc., il faisait toute la différence et ça le rendait à part.
Je pense que cette impression-là que tu as, c'est que justement, c'est lié à ce qu'il est lui, c'est-à-dire que c'est un joueur qui sait se fondre, mais c'est un talent complètement dingue. Je me souviens quand il commence à percer la fin des années 90, c'est formidable, Raoul. Je veux dire, c'est son pied gauche, son talent, et tu sais pas où le qualifier. C'est un attaquant, c'est pas vraiment un attaquant, c'est un peu comme Djorkaeff, c'est des types assez inclassables sur le terrain. Qui peut faire du bien partout et il avait ça de formidable, voilà. Et je trouve que voilà, d'une certaine manière, Ronaldo l'a non pas ringardisé, mais a fait oublier que ce joueur était fantastique avant lui.
Puis surtout, c'est l'un des rares très grands attaquants à avoir accepté de faire de la place à des joueurs comme les deux Ronaldo, d'ailleurs Ronaldo le brésilien, puis Ronaldo le portugais. Tu le disais, c'est un joueur de devoir, c'est aussi un joueur qui avait la mentalité pour accepter de faire de la place et de pas prendre toute la lumière, tout simplement. Je ne suis pas sûr qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo en aurait été capable, par exemple.
Je pense que ce qui fait à la fois la grandeur et la limite de Raoul dans la perception qu'on a de lui aujourd'hui, dans l'histoire du Real, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est ce côté joueur dédié d'abord à son club, au collectif et à la destinée collective de son équipe et de son club. Vous l'avez dit, hein, il gagne quand même 3 Ligues des Champions avec 3 équipes différentes. Il se fond dans cette équipe des Galactiques, mais peut-être que sa limite, c'est que ça n'a jamais été le Real de Raoul de façon indiscutable, comme ça a été le Real de Di Stefano, comme ça a été le Real de Ronaldo. Et un truc qui est très révélateur, c'est les 3 finales de Ligue des Champions qu'il gagne. Il n'est jamais vraiment au cœur du truc. C'est Mijatovic qui marque en 98 le but de la victoire contre la Juve, celle qui effectivement permet au Real de renouer avec sa grandeur passée. En 2000, je crois que c'est un doublé de McManaman et
il marque le dernier en 2000.
C'est pas Morientes qui marque le dernier but?
C'est le premier Morientes, il me semble.
Il me semblait que c'était un doublé de McManaman et un but de Morientes. Mais bon, et en 2002, il marque contre les Leverkusen.
Ouais, ouais.
Mais de cette finale, il reste évidemment, entre guillemets, que le but de Zidane qui éclipse tout le reste. Et cette finale, finalement, elle est assez révélatrice de la place de Raoul. Après, Raoul, je pense que, je ne sais pas comment on mesure le talent, mais enfin, c'était un joueur vraiment très, très doué, élégant en plus, voilà. Un joueur qui était très, très beau à voir. Et donc, je pense que c'était quand même un joueur de classe mondiale. Après, effectivement, avec l'Espagne, il est arrivé un petit peu trop tôt, malheureusement, pour lui. Donc, il y a peut-être une part d'injustice dans la façon dont on le considère aujourd'hui, même si je n'irais quand même pas jusqu'à dire qu'il a été oublié. Mais oui, c'est sûr qu'il n'est peut-être pas perçu et considéré à sa juste valeur.
Pour confirmer, c'était Morientes qui avait ouvert le score en 2000, McManaman et Raoul pour finir, 3-0. D'accord. Face à Valence. C'est vrai qu'en parlant de Morientes, on associait au début souvent Raoul et Morientes. On disait c'est l'attaque, c'est Raoul Morientes. Alors que comme tu dis Laurent, Di Stefano, on parlait du Real de Di Stefano, du Real de Ronaldo, moins du Real de Raoul. Vas-y, Maxime.
Non, je ne sais pas si tu allais en parler d'un classement fait par la presse espagnole, où justement il n'est pas très très haut, voilà, tout simplement. Et je ne sais pas si tu as le classement là, mais il
est
derrière.
Ouais, il est sixième dans le classement. Voilà. AS a établi un classement en octobre dernier des 50 plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid. Et effectivement, Raoul n'est qu'à la sixième place.
Et pour être honnête, avec tout le respect, l'immense respect que j'ai pour Zinedine Zidane, mettre Zinedine Zidane joueur devant
juste devant
Raoul,
lui, cinquième, oui.
J'avoue que ça me laisse un peu pantois. Après, je pense que ça rejoint ce que disait Laurent sur ses limites. C'est-à-dire que Zidane, qu'il fait aussi passer devant, je pense, c'est une aura exceptionnelle. Simplement un truc qui n'est pas quantifiable.
Et puis je pense qu'on considère aussi ce que représente le joueur sûrement
à côté.
Ouais. Voilà, ouais,
football, ouais. Au football, par rapport au football.
Ouais.
Mais dans l'histoire du Real, je pense qu'il est possible que Raoul soit plus indispensable à ce moment-là que Zidane l'a été, même si évidemment il y a ce but en finale de 2002. sur l'apport et sur la trace laissée. Voilà. Après, évidemment, il y a Zidane entraîneur, et là, c'est évidemment pas discutable. D'ailleurs, il est intéressant de voir que Raoul, aujourd'hui, entraîne les jeunes au Real. Donc, peut-être qu'il s'inscrit.
Mais regarde où place souvent beaucoup de gens, Ronaldinho, par exemple, dans l'histoire du PSG. Ah, oui. Zidane a fait beaucoup plus pour le Real que Ronaldinho pour le PSG. Mais ce que je veux dire, c'est que Ronaldinho, dans l'histoire du PSG, c'est peanuts. Mais comme c'est un immense joueur…
Tu confonds entre le joueur, talent, ce qu'il est, voilà, et ce qu'il apporte au club.
Cette perception-là, elle est souvent un peu biaisée dans ce type de classement. Mais après, moi, ça me choque pas forcément qu'on mette Zidane au-dessus, même si je comprends ce que tu dis. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses, des gestes, des buts, des moments qui écrasent un peu tout. Et je pense que rien que le but de Zidane en finale de Ligue des Champions, c'est probablement un des buts les plus célèbres de l'histoire des finales de Ligue des Champions. Et moi, c'est un peu ce qui me manque avec Raoul, c'est un moment signature. Il a mis énormément de buts, il a été très performant, il a été ultra, ultra important pour le Real au carrefour des années 90 et 2000. Mais c'est vrai que il n'y a peut-être pas, comme pour Ronaldo ou comme d'autres, ou comme Zidane, un moment dont on peut se dire, voilà, il fallait le définir. Mais c'est, encore une fois, j'y reviens, c'est à la fois sa limite et sa force, parce que sa force, c'était d'être très indispensable à sa manière, même s'il n'a peut-être pas ce moment signature-là comme l'autre.
C'est un peu le parallèle que tu peux faire, l'équipe de France avec Djorkaeff à une échelle différente, c'est-à-dire que tu sais que le type est hyper utile, hyper indispensable, mais il te manque le grand moment que tu vas prendre, le moment signature. Et j'ajoute un truc, c'est quand même accessoirement le joueur qui a joué le plus de matchs aussi au Real, ce qui dit quelque chose vu la taille du club et son histoire, évidemment.
741 matchs officiels joués avec le Real Madrid. Pour continuer dans ce classement qui avait été établi par le journal AS, juste derrière Raoul, il y a un autre immense joueur, et c'est un gardien. C'est le joueur que tu as choisi de défendre, Julien, c'est Iker Casillas.
Ouais, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, ils ont beaucoup de points communs, Raoul et Casillas. Bien sûr, c'est deux enfants du club, c'est deux joueurs qui ont commencé très tôt aussi. Casillas est le plus jeune gardien à avoir disputé une finale de Ligue des Champions. Sauf que la différence pour moi entre Raoul et Casillas, c'est que Casillas, il a duré au-delà des Galactiques, il a aussi duré au-delà de la période difficile, à savoir la domination du Barça, pour revenir et pour porter aussi la décima en 2014. Et pour moi, cette longévité-là, sur ces deux époques-là, enfin même ces trois époques-là, elle dit quelque chose du talent qu'il faut, du joueur qu'il a été. Pas forcément comme gardien, même si ça a été un très très grand gardien et que c'est peut-être même le plus beau palmarès parmi les gardiens dans l'histoire du football mondial, mais sur le leader qu'il a été dans le vestiaire et sur le terrain, alors qu'on a une image finalement très lisse de Casillas, on a l'image d'un joueur exemplaire, d'un joueur plutôt calme. En revanche, sur le terrain, Carlo Ancelotti l'a dit, il y en a plein d'autres qui l'ont dit, Sergio Ramos notamment, c'est un joueur dont le Real avait besoin pour pouvoir conquérir cette fameuse décima qui a tant tardé à arriver, qui est finalement arrivée en 2014, où d'ailleurs Casillas n'a pas été exemplaire puisqu'il est largement fautif sur le premier but. Mais pour revenir à cette fameuse finale contre Leverkusen, il faut aussi se souvenir que Casillas il rentre en cours de match à 22-25 minutes de la fin du match, et il sort quand même deux parades assez miraculeuses. Je crois que c'est devant Berbatov, sur un corner qui arrive au deuxième poteau, et il la sort du pied un petit peu à l'arrache. Et la deuxième, je ne sais plus, je crois que c'est aussi sur Berbatov, c'est sur une tête sur corner, c'est en toute fin de rencontre. Et s'il y a but, ça change beaucoup de choses. Donc, moi, j'aime voir cette évolution-là, dire qu'il a été important pour celle de 2002, alors qu'il était très jeune, évidemment, et qu'il a été important pour celle de 2014 sur l'ensemble de la saison, où il a eu un rôle. Il jouait qu'en Ligue des Champions parce qu'il avait déjà été rétrogradé par Mourinho auparavant. Et il joue en Ligue des Champions parce qu'il est beaucoup trop important sur le rôle qu'il avait sur le terrain pour qu'on le mette aussi sur le banc comme on le faisait en Ligue 1.
Moi, j'adorais Casillas. Et dès le début, tu l'as dit, il a démarré très, très jeune. Il a tout assumé très, très jeune. C'est un des plus beaux palmarès de l'histoire du football, déjà. Ouais.
Il a fait ce que Raoul n'a pas fait, c'est-à-dire suivre avec...
Oui, lui, il est tombé dans la bonne génération, quoi. Il est arrivé au bon moment, lui. Immense gardien. Après, c'est toujours pareil.
Je pourrais pas dire qu'il a mis 450 buts, c'est sûr.
Non, non. Et
le problème des gardiens, en général.
La question, c'est est-ce que le Real aurait conquis les mêmes titres au XXIe siècle avec un autre gardien que Casillas?
La décima, je suis pas sûr. Celle d'après, je sais pas.
Je sais pas, mais la en décima, tout cas, ce qui est sûr, c'est que si t'enlèves Cristiano Ronaldo de cette génération-là, c'est pas la même équipe. Si tu enlèves Iker Casillas, c'est peut-être pas tout à fait la même équipe, mais je pense quand même que c'est moins. J'aime pas dire ça parce que moi en plus j'étais gardien de but, donc je me tiens un peu une balle dans le pied. Mais ça reste un gardien de but et la place des gardiens dans l'histoire du foot, le Ballon d'Or le montre très bien. Elle est à part. J'ai pas envie de dire qu'elle est moins importante, mais elle est tellement à part, c'est un poste tellement différent que pour moi c'est difficile de considérer que Casillas est le joueur en tout cas le plus important de l'histoire du Real ou même de cette génération là. Mais une fois que j'ai dit ça, c'était un joueur que j'adorais, un gardien que j'adorais, et je respecte ton choix.
C'est un très bon choix et un gardien fantastique, moi, que j'ai adoré pour plein de raisons, pour ses réflexes, etc. Mais c'est ce que tu dis, Laurent, c'est compliqué parce que on le voit d'ailleurs, l'impact quand Casillas part, le Real a continué à gagner derrière. Quand voilà. Ronaldo part en Ligue des Champions, ouais. C'est plus du tout la même histoire derrière, ça a plus rien à voir. Ça en dit beaucoup peut-être en effet sur ce qu'est le rôle, l'importance. Mais pour moi pourtant, c'est ça qui est très paradoxal, parce que pour moi, ce que j'ai adoré avec Casillas, c'est son leadership, ses qualités de leader. C'est un joueur aussi fantastique pour ça et pour plein de raisons, que ce soit au Real ou évidemment avec l'Espagne. Ce que je retiens de lui, c'est évidemment toutes ces scènes avec les trophées, etc. Et c'est aussi c'est tellement l'image que j'ai du Real au sommet.
Mais c'est évidemment beaucoup plus difficile de s'en rendre compte. Tout à l'heure, Maxime faisait un parallèle avec Djorkaeff. Nous, on peut faire le parallèle avec Lloris quand on a vu l'importance qu'il a eue sur la conquête du titre mondial avec l'équipe de France en 2018. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile de s'en rendre compte parce qu'il n'y a pas les buts, que c'est moins médiatisé et qu'on n'est pas dans le vestiaire pour voir l'importance d'un gardien. Mais quand on écoute les coéquipiers, quand on écoute les entraîneurs, notamment Ancelotti à l'époque, on se rend compte finalement que ces joueurs-là, enfin, ces gardiens-là de cette envergure-là, ils sont absolument indispensables.
Après, qui rentre dans la discussion dans un club comme le Real, qui est porté vers l'offensive, vers le spectacle, c'est dit déjà le poids du joueur, parce que justement, c'est pas le club où on reconnaît le plus de qualité, j'allais dire, au gardien de but. Voilà, c'est formidable. Moi, ce que je retiendrai aussi, c'est le caractère. Comme tu dis, tu as parlé de 2002. Faut savoir que cette saison 2002, c'est un peu la saison de sa rétrogradation. C'est César qui lui est passé devant. Il y a les débuts qui sont fantastiques, où il passe derrière Bodo Higner, qui devient titulaire. Et cette saison 2002 est plutôt compliquée pour lui. C'est aussi pour ça qu'il joue pas la finale au départ et qu'il rentre en jeu. Et finalement, ce qu'il résume bien, c'est qu'il rentre et qu'il sort les parades et qu'il fait le job et qu'après, derrière, il deviendra pendant très longtemps inamovible. Et je trouve qu'il a ce petit... quand on va parler des succès de l'Espagne, on va presque, non pas oublier, mais je pense qu'il est plus important d'ailleurs pour l'Espagne dans ses conquêtes mondiales européennes que pour le Real, ce que disait Laurent tout à l'heure. Et notamment, moi je le répète, s'il y a une stat que je retiendrai qui est complètement dingue, c'est que ce type-là, le dernier but qu'il a pris en phase élimination directe en Coupe du Monde ou à l'Euro, c'est contre la France en 2006. 2008, 2010, 2012, il ne prend pas un but. Et c'est pas seulement parce que l'équipe d'Espagne a le ballon, c'est parce qu'il est fantastique sur sa ligne, notamment en finale de l'Euro 2012. Donc voilà, il y a un très grand gardien, et comme vous l'avez résumé, c'est ça, c'est difficile de lui donner une place aussi prépondérante que les autres dans un club, en plus de surcroît, comme le Real Madrid.
D'ailleurs, il fait un record d'invincibilité aussi pendant la Ligue des Champions, sur la Ligue des Champions. Donc. Ça dit quand même. D'ailleurs, c'est le joueur qui a disputé le plus de saisons consécutives. Je crois que c'est 20 saisons consécutives en Ligue des Champions. C'est le plus jeune joueur à avoir disputé une finale de Ligue Champions, on l'a dit. Et puis, c'est le joueur aussi qui a disputé le plus de matchs en Ligue des Champions.
Il y a sa fin de parcours au Real qui est quand même pas idéale.
Oui, ça s'est terminé.
C'est le prix de la longévité.
Oui, c'est ça, à un moment.
Mais
725 matchs officiels.
Sa longévité est quand même plutôt à mettre à son crédit. Je pense qu'à son début, mais encore une fois, c'est vraiment une place à part pour moi, Casillas.
Il y a une chose que vous n'avez pas forcément dite, même si vous l'avez pensé très fort, et notamment lorsque Julien, tu as fait ta comparaison avec Lloris, c'est que c'était le capitaine. au-delà d'être un gardien, c'est un capitaine. Donc ça montre le meneur d'homme que ça, c'était au sein de la Maison Blanche. Et ce qui explique également son, voilà, son aura. On ne l'appelle pas San Iker pour rien non plus. Quoi.
C'est... Bien sûr, et c'était, il l'avait dit dans une interview, je crois que c'était à Marca, ou à ses débuts justement, où il était, c'était un petit peu plus compliqué, notamment sur la saison 2002, c'est qu'il avait beaucoup de mal à faire passer des consignes parce qu'à côté de lui, bah, il y avait des joueurs qui avaient une aura absolument extraordinaire. Et pour lui, c'était difficile de gueuler, entre guillemets. Et que ça, c'est quelque chose qu'il a appris au fur et à mesure. Et puis à la fin, bah, c'était le patron, tout simplement, sur le terrain, devant des joueurs comme Sergio Ramos, par exemple.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut le voir aujourd'hui. Je ne sais pas s'il arriverait à percer aujourd'hui, parce que s'il faut rappeler, c'est un gardien à dimension humaine. C'est-à-dire, c'est un gardien qui fait, je crois, il fait 1m82, pas beaucoup plus grand. C'est les dimensions de Fabien Barthez, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que... avec le regard d'aujourd'hui, avec les gardiens immenses, on se rend compte aussi des qualités qu'il avait, en temps, des qualités techniques sur la ligne, tout ça, qui en font vraiment un des meilleurs gardiens de l'histoire, tout simplement.
On va remonter dans le classement pour finir notre qui c'est le plus fort sur les meilleurs joueurs, les plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid, avec un joueur qui représente un peu plus l'ADN du club. On parlait des avançants, des attaquants. Lui, il a terminé en tête du classement AS, c'est Alfredo Di Stefano, la légende du Real que Laurent a choisi de défendre.
AS a toujours raison, de toute façon.
Bah, juste sur le classement, moi je dis
notamment sur les transferts.
Je pense qu'il y a aussi l'effet sur ce classement-là du c'était mieux avant qui marche.
Ah Cristiano Ronaldo.
Non.
Ouais. Ça c'est à double tranchant quand même souvent cet argument.
Ouais, alors ça disqualifie. Donc à partir de quand c'était mieux avant? On n'a pas le droit de parler de. Non mais dis-moi, c'est quoi? C'est 30 ans, 40 ans, 50 ans?
À partir de
quel moment c'est trop vieux et c'est un argument de boomer?
Non, mais pour journal comme ça, c'est très que madrilène.
Le premier, entre guillemets, a souvent l'avantage d'être premier. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent. C'était le cas pour Pelé, c'était le cas pour...
D'ailleurs, je vous invite à écouter cet excellent podcast Pelé versus Maradona. Et Pelé, c'est une évidence. ce que je veux dire, Julien, je suis en partie d'accord avec toi, mais je trouve que c'est des fois un contre-argument parce que des fois, justement, ça désavantage le joueur. Et je dirais d'autant plus un joueur comme dit Stefano qui n'a pas la carrière, on va dire... international, je veux dire, en Coupe du Monde, d'un Pelé, par exemple.
Après, ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais bien aimé attendre dans 50 ans pour voir si Ronaldo sera encore derrière.
Le problème de Ronaldo dans ce genre de classement, notamment pour un quotidien comme AS, qui est madrilène, évidemment, c'est qu'il n'a pas conquis vraiment le cœur des supporters.
Laurent va nous le dire, mais Di Stefano, il a quelques arguments quand même.
Un petit peu.
Ouais, non, mais déjà, cette histoire du le premier qui a joué est privilégié. Il y a plein de contre-exemples dans l'histoire du sport qui montrent exactement le contraire. Si je prends l'exemple du tennis, c'est plutôt le dernier qui a gagné qui a raison. Je n'ai pas l'impression qu'on considère que les joueurs pré-ère Open ou qu'on connu les deux soient privilégiés dans leur perception dans l'histoire du tennis par rapport à un Federer, un Djokovic ou un Nadal. Ouais, je mets ça de côté. Maintenant, Di Stefano, je ne sais pas si c'est le plus grand joueur de l'histoire du football, du Real, parce que d'abord, chacun mettra un peu ce qu'il veut derrière cette notion de grand joueur. En revanche, il y a une chose dont je suis sûr et qui là me paraît incontestable, c'est que c'est le joueur le plus important de l'histoire de ce club et de très, très, très loin. Quand il arrive au Real en 1953, il faut se souvenir quand même de ce qu'était le Real au niveau espagnol. Est-ce que vous savez depuis quand le Real n'a pas été champion quand il arrive, Di Stefano?
Vas-y.
Depuis 21 ans. Depuis 20 ans exactement, depuis 1933. Donc, tout à l'heure, on parlait du fait que le Real n'avait pas gagné la Ligue des Champions pendant 32 ans. Mais enfin, ça restait quand même un très grand club et en Espagne et même au niveau européen. Puis, ils ne gagnaient pas la Ligue des Champions, mais ils ont gagné d'autres Coupes d'Europe, dont certaines, je pense aux années 80 notamment, étaient peut-être plus difficiles à gagner que la C1. Je pense à la Coupe UEFA qui, à l'époque, regroupait 4 équipes des meilleurs championnats, alors que la Coupe des Champions n'en avait qu'un, même si c'était le champion de l'année précédente. Donc, quand il arrive, dit Stefano, le Real, c'est loin d'être le roi d'Espagne qu'on connaît aujourd'hui. Entre le titre de 1933 et celui de 1954, puisque le Real va être champion dès la première saison de Di Stefano à Madrid, il y a 7 ou 8 clubs qui ont été champions d'Espagne. 7 ou 8 clubs différents en une vingtaine d'années. Le Real, nada. Donc, quand il arrive... il y a tout à reconstruire et c'est lui qui va mettre le Real au milieu du jeu. 11 saisons, 8 titres de champion, Évidemment, les cinq Coupes des Champions consécutives. Alors, c'est vrai que Di Stefano, à ce niveau-là, il a de la chance, il arrive lui vraiment au bon moment. Parce que la Coupe des Champions va être créée en 55. Donc, au moment où lui, il est là et où il est la star du Real. Donc, ça l'a vraiment servi, à mon avis, dans l'héritage, parce que ce qu'a accompli le Real entre 1955-56, la première année, et le début des années 60, ça reste quelque chose d'absolument mythique. Et lui, il est l'incarnation la plus mythique de cette équipe mythique, même s'il y en a eu d'autres. Et c'est vrai que la ligne d'attaque avec Coppa, Puskás, Di Stefano, Rento en 58-59, c'est quelque chose. Alors, même si c'est très vieux, hein, donc c'était... C'est pas le football d'aujourd'hui, mais c'était quand même, je pense, quelque chose de jamais vu à l'époque. Et je ne sais même pas s'il y a vraiment un équivalent dans l'histoire du football européen. Donc voilà, pour moi, c'est le joueur qui a complètement changé l'histoire du Real. Et à ce titre, Raoul n'a pas fait ça, Zidane n'a pas fait ça, le Real de Butragueño dans les années 80 n'a pas fait ça, Cristiano Ronaldo n'a pas fait ça. Parce que quand ces joueurs-là sont arrivés, le Real était bien plus puissant et bien plus fort que ne l'était le Real quand Di Stefano est arrivé à Madrid. Et puis après, il y a tout un tas de choses mythiques. D'abord, il faut se souvenir que quand il débarque à Madrid, c'était la guerre entre le Barça et le Real pour l'avoir. Les deux étaient persuadés d'avoir un contrat en bonne et due forme. Les Catalans n'ont jamais vraiment digéré que... de leur point de vue, le gouvernement et Franco sont intervenus pour que Di Stefano joue au Real et pas au Barça. Donc l'histoire aurait pu être complètement différente hein, s'il avait joué à Barcelone. Et puis maintenant, il faut parler du joueur. C'est un joueur dont on ne l'a pas vu jouer. Même moi qui suis beaucoup plus vieux que vous, je ne l'ai pas vu jouer. Mais Pelé l'a vu jouer, Bobby Charlton l'a vu jouer. Et pour eux deux, Di Stefano, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football. C'est le joueur le plus complet, le plus fort, le meilleur. Et je pense qu'on peut donner un petit peu de crédit à eux. En tout cas, ça veut dire quand même, ça en dit assez long sur ce qu'était ce joueur, qui est considéré unanimement comme un des 10 plus grands joueurs de l'histoire du football. Là, je ne parle pas du Real Madrid. Ce n'était pas un avant-centre, et pourtant, il n'y avait pas deux buteurs comme lui. Il avait un sens du but ahurissant. Ce n'était pas un meneur de jeu, ce n'était pas un numéro 10, et pourtant, c'était un créateur extraordinaire. Il avait tout. Il avait une technique hors pair, un sens du jeu, un sens du but, un physique énorme pour son équipe. Il était rapide, il était endurant. Et en plus, c'est un joueur qui travaillait énormément défensivement. Et quand Pelé disait que pour lui, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football, c'est à ça qu'il faisait référence aussi. C'est le côté ultra complet de Di Stefano qui était partout. Et il y a la fameuse finale contre Francfort où il met un triplé. Et je crois que Puskás met un quadruplé. Ouais. Il y a une séquence qui est beaucoup moins célèbre, mais où Di Stefano, il fait une course de 50 mètres pour venir sauver juste devant sa ligne un but tout fait de l'Eintracht Francfort. Voilà, c'était ça, Di Stefano. Donc, un joueur incroyablement complet et le joueur qui a le plus pesé sur le cours de l'histoire de ce club énorme qu'est le Real Madrid.
Je te rejoins totalement, notamment sur le côté être à l'origine de ce qu'est devenu le Real. J'ai juste un... Allez, moi, ce qui m'a fait pencher pour Ronaldo, quand évidemment on s'est posé la question, c'est aussi la pression. Parce que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que Ronaldo, il arrive dans un club qui est déjà installé, qui est déjà l'un des plus grands clubs au monde, voire. Mais il arrive, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il a une pression dingue autour de son transfert, il y a la rivalité avec Lionel Messi, et il assume tout ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours bluffé avec Ronaldo au Real, c'est cette régularité dans la performance pendant 9 saisons, à être toujours au top niveau, malgré toute la pression qui est quand même cette pression médiatique de notre époque, qui est quand même hallucinante, ouais. Qui est quand même dingue.
C'est vrai, mais quand Di Stefano arrive, Santiago Bernabéu vient de construire son stade de 130 000 places.
Ouais, bien sûr.
Je peux le dire. Alors, oui, évidemment, je veux bien croire que la couverture médiatique, évidemment, on ne peut pas comparer. C'est incomparable.
Moi, pour moi, c'est toujours l'argument, et je trouve qu'il faut toujours faire attention aux anachronismes, c'est-à-dire que tu corresponds à une époque. C'est-à-dire que moi, ça me ferait. Gagner le 100 mètres quand on est Usain Bolt en 2008, c'est plus dur que de le gagner en 36 quand on est Jesse Owens, en mettant dans l'époque? Ben, je ne suis pas sûr, tout simplement. Donc, je pense que je ne donne pas moins de valeur à une équipe comme le Real et cette formidable équipe du Real et Di Stefano qui en ligne 5 de suite, parce que finalement ils sont le fruit de leur époque et en face d'eux il y avait des équipes qui correspondaient à ça. Donc ça dit aussi la limite du truc, mais je trouve que ça n'a pas moins de valeur parce que peut-être que tu échanges les deux, ça n'aurait pas fonctionné dans
non, non, oui, bien sûr, ça, évidemment, ça n'a pas moins de valeur. C'était pas le
non, 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 je sais bien, mais c'est
propos. C'était juste... de dire cette moi, ce qui m'a vraiment toujours impressionné, c'est vraiment cette régularité sur devant tant de pression. Mais c'est ce que vous dites, évidemment, à l'époque, dit Stéphano, on avait à son échelle,
surtout avec le contexte que j'ai rappelé.
Ouais. Oui, bien sûr.
La guerre avec le Barça, c'était. Je pense qu'à à l'échelle médiatique de l'époque, ça devait être quelque chose d'assez lourd quand même à porter.
Et j'ajoute que, pour donner un autre exemple, tu as parlé de Pelé. Quand Pelé revient en 70, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas tout ça. Mais je peux dire que la pression, elle est sur ses épaules et c'est inimaginable. Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est calibré.
Mais par définition, on ne peut pas reprocher à quelqu'un, on ne va pas reprocher à Di Stéfano de ne pas avoir supporté la pression des réseaux sociaux. Enfin, là, on est effectivement dans la. Sinon, on fait de l'anachronisme.
Et non, mais c'est toujours difficile avec Di Stéfano, parce qu'évidemment, il a sa carrière du Real. Et ce qui lui a manqué, finalement, c'est une carrière, j'allais dire, internationale. Il a joué pour deux sélections, l'Argentine et l'Espagne. Et voilà, c'est peut-être ce qui manque et ce qui fait que dans cette galaxie.
On parle du Real. Ouais, on parle du Real.
Autour de Pelé, non, parce que tu parlais de Pelé, tout ça. Et c'est vrai que c'est ce qui, parfois, le rend.
Dans sa perception globale, oui,
exactement. Difficile à classer, mais.
Même s'il était quand même. À la fin du. Je sais plus si. C'est la FIFA, je crois, qui avait fait le 11 du siècle
ouais.
en 1999 et il était dedans. C'était pas un 11 hyper équilibré hein, parce que je crois qu'il y a Pelé, de mémoire, il y a Pelé, Maradona, Di Stéfano, Cruyff, Platini, Garrincha. Donc ça aurait pas. Ça travaillait pas beaucoup défensivement.
C'est même pas un 11, c'est un 32.
Mais dedans, c'est probablement le seul joueur, effectivement, qui n'a pas connu un rayonnement en sélection comme on pu le connaître les autres, mais justement pour moi ça renforce encore l'impact de ce qu'il a pu faire entre guillemets juste avec le Real Madrid. C'est ça qui est très très fort. Mais pour le Real, encore une fois, moi on peut me dire que Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur ou le meilleur joueur à jamais avoir porté le Real, le maillot du Real, ou que c'est Zidane ou qui vous voulez, mais vraiment j'en démordrai pas. Je pense que celui qui a tout changé et qui a permis de mettre le Real, de poser les fondations du Real qu'on connaît depuis 50, 60 ans, c'est vraiment Di Stéfano.
Et alors pour les plus jeunes, il est décédé maintenant depuis, je crois, 2014.
2014
C'était le vieux monsieur qu'on voyait à chaque fois qu'il y avait un transfert.
Je crois qu'il est là quand Ronaldo est présenté, d'ailleurs, si je me souviens bien.
Ah oui, mais il était. Bah voilà, c'était.
En fait, c'est un peu le. Il passe le relais.
Mais ça dit son poids aussi. C'est-à-dire que c'est comme une forme. Alors, à la fin, il a adoubé sûrement plus grand monde, mais c'est une forme d'adoubement. Voilà. Tu es adoubé par Di Stéfano qui était tout le
temps là. Et puis, c'était une voix qui restait écoutée, même s'il disait parfois, un peu comme Pelé, il disait parfois des bêtises, mais voilà, c'est une figure tutélaire. Quoi.
Et d'ailleurs,
il était entraîneur après aussi, il a connu une belle carrière d'entraîneur.
Et d'ailleurs, Ronaldo, qui n'était pas toujours le dernier à dire qu'il était le meilleur, au Real Madrid, il a toujours dit que Di Stéfano était le meilleur de l'histoire du Real.
Ouais, je pense que même lui comprenait que. Enfin, comprenait, je ne veux pas dire qu'il est bête, hein, mais même lui qui est tellement au centre de sa propre attention et qui se met au centre de tout, avait compris que s'il y a une figure à laquelle on ne pouvait pas toucher à Madrid, au Real, c'était Alfredo Di Stéfano. Ouais.
Et d'ailleurs, dernière chose, ça je voulais pas le dire parce que ça aurait été trop facile pour vous au début, mais Casillas, on lui avait posé la question sur Twitter il y a 3 ans, je crois, il était déjà 4 ans à Porto. Qui est le meilleur joueur de l'histoire du Real? Il dit, je peux pas le donner, je peux en donner 2 sur 3, c'est Di Stéfano et Ronaldo.
Donc oui, mais déjà il a eu sa réponse. Enfin, cela dit, ouais.
Pour compléter ce classement, donc on a bien compris que Di Stéfano trônait un peu tout en haut, si j'en crois Laurent. Tu as cité un
autre. Ça dépend des critères.
vous êtes d'accord quand même que c'est le joueur le plus important ou pas?
Je te rejoins totalement sur le côté le plus important. C'est lui qui bâtit, qui a l'origine de ce qui est devenu.
C'est lui qui change tout.
Voilà. Mais on peut marquer de différentes manières.
Il veut revenir sur Cristiano.
De différentes manières.
Mais le Real a été grand, y compris juste avant Ronaldo, parce que
qu'il
n'avait pas gagné de Ligue des Champions depuis 2002. Enfin, ce n'était pas non plus un gouffre générationnel. Il n'y avait pas une attente depuis des décennies. Et je pense que le Real restera grand après Ronaldo, même si ça prendra peut-être quelques années.
Ils ont gagné une Liga sans lui, grâce à un énorme
Benzema. Et puis, je ne suis pas tellement inquiet, ils regagneront la Ligue des Champions si c'est pas dans 1 an, si c'est pas dans 5 ans, ce sera peut-être dans 10 ans, mais ils la regagneront parce que le Real est un monument indépassable aujourd'hui dans le foot européen et ça, ça date des années 50.
Il y a un nom que tu as cité, Laurent, et ça permet de compléter ce top des plus grands joueurs du classement de Haas. En 3, c'était Paco Rento qui était le contemporain de Di Stefano. Mais voilà, en termes de palmarès, parce que ça peut compter aussi dans les classements des plus grands joueurs.
Il en a 6.
Il en a une de plus, voilà, et il a 12 Ligas. C'est le joueur le plus titré.
C'est le plus gros palmarès, oui, parce que lui, il était encore là en 66.
Il était là. Voilà.
C'est un peu le Raoul de.
Non, mais c'est ça. C'est exactement ça.
C'est comparable, mais c'est un peu ça.
Il y a de l'idée.
Donc Paco Rento 3 et en 4, Puskás aussi, Ferenc Puskás, qui mérite d'être cité dans ce.
Que je trouve presque. C'est dur de dire ça, mais je le trouve presque haut, moi, par rapport. En tout cas. Mmh. Moi, modestement, je le mettrais derrière des joueurs comme Raoul ou Casillas. Parce que même s'il a été phénoménal au Real, pour moi, ce n'était pas le Real de Puskás. C'était vraiment le Real de Di Stefano quand même.
Puskás, que vous pouvez retrouver dans un excellent podcast qu'on a fait auparavant. <C'est vrai. rire> On boucle. C'était quoi les meilleurs joueurs à avoir eu Ballon d'Or, je crois.
Ne jamais avoir eu Ballon d'Or, malgré son quadruplé. Mais... En 58, non, je sais plus combien, contre Francfort. Voilà.
Francfort, 66 du coup. Je pense.
Non, c'est pas 66 parce que Di Stefano était là.
Ce qui serait intéressant, je sais pas si tu en penses, Adrien, je reprends un peu la main, c'est de parler de, parce que tu l'as dit dans le classement, le cas Zidane justement.
Zidane 5e,
Où est-ce qu'on le classe dans cette galaxie, voilà.
Je le trouve assez à sa juste place, moi, je sais pas, 5e, ça me paraît pas mal, quoi.
A compris que Laurent le mettait devant Raoul et Maxime le mettait.
Moi je mets Raoul.
Non, j'ai dit que ça ne me choquait pas, en tout cas, qu'on puisse le considérer au-dessus de Raoul. Mm-hmm.
Donc 5 Zidane, Raoul, Iker Casillas. Nous avons, pour compléter le top 10 et être complet, en 8, il y a Amancio, en 9, Pierri, et en 10, Butragueño.
Ah, le Boutré. lui, c'est vraiment. Lui, ce qui lui manque, il a fait partie d'une équipe extraordinaire et qui était la dernière équipe vraiment. De la Casablanca, quoi. C'était la Quinta del Boutré, c'est ces 5 joueurs qui ont débuté quasiment en même temps en équipe première du Real, qui a été 5 fois de suite championne d'Espagne dans les années 80 et qui aurait dû gagner la C1, c'est ce qui lui a manqué. Mais d'ailleurs, juste pour redonner une petite statistique, quand le Real est champion en 54, 21 ans, premier titre depuis 21 ans, depuis le Real n'est jamais resté plus de 5 ans sans gagner un titre. C'est en ça aussi qu'il y a un avant et un après Di Stefano. Voilà, j'arrête.
Très bien, messieurs. Merci d'avoir participé à ce podcast. N'hésitez pas, si ça vous a plu aussi chez vous, à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes directement sur votre smartphone. Vous pouvez écouter les anciens. Maxime en a cité quelques-uns. Le plus grand joueur à jamais avoir eu Ballon d'Or, Pelé versus Maradona. Il y en a pas mal.
Si vous restez, je vous ferai la liste.
Platini, Zidane.
Platini, Zidane.
Voilà.
Platini, évidemment.
Allez, c'est reparti. Merci d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et profitez bien de cette belle journée. Salut.
Salut.
Au revoir. Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.